Il est 7h sur Radio Chablais. S'il vous reste du maquillage de monstre sur l'oreiller, c'est que vous avez plutôt bien festoyé.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Florent Barbet nous présente le journal. Bonjour.
Bonjour. La cabane de Suzanf va subir une cure de jouvence. L'établissement situé au-dessus de Champéry est surnommé la cabane du bonheur, a vécu son dernier été avec une ouverture normale. L'année prochaine, les travaux de sa transformation débuteront. La structure sera agrandie et mise aux normes, tout en conservant la première partie en pierre, construite en 1932 par le club alpin d'Yverdon-les-Bains, propriétaire des lieux. Écoutez Loïc Engly, il est président du CAS Yverdon-les-Bains.
La cabane, elle va pas être agrandie dans le sens où on aura plus de capacité d'accueil. En revanche, le volume grandit vu que le programme a évolué depuis les années 60 quand la dernière cabane avait été construite. Et puis on intègre des WC à l'intérieur, on aura toute la technique qui évolue un petit peu. Donc le volume sera plus grand, mais la capacité d'accueil sera la même. Il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à ça. Déjà une question de moyens financiers qui nous permet pas forcément de faire plus grand, mais aussi de respect de la montagne qui ne peut pas forcément accueillir plus de visiteurs. Il y a déjà beaucoup de monde dans cette région. Et nous, on ne veut pas qu'une cabane plus grande crée des bouchons ou des accidents dans la région.
Des propos recueillis par Valérie Favre. Le coût du chantier s'élève à 3,5 millions de francs, financés d'un tiers par le fonds de rénovation du club alpin suisse. Toujours à Champéry, le petit parc a fait peau neuve en 2025 et fait la joie des enfants. La place de jeu modernisée, aussi accessible aux personnes à mobilité réduite, vise à favoriser les échanges entre toutes les générations. En plus des traditionnels balançoires, toboggans et tables de ping-pong, cette remise à neuf apporte un nouveau couvert aménagé, des zones de détente ainsi qu'un environnement ludique sécurisé pour tous les âges. Selon Sophie Zurkirchen, l'ancienne municipale en charge du projet, l'infrastructure a été très bien accueillie par la population.
Ici à Champéry, on a vraiment de la chance, en fait, justement, les gens vont dehors, peut-être plus qu'ailleurs, on est à la montagne, les enfants sont hyper agiles, les touristes ont aussi envie de sortir, donc on voit qu'il y a une affluence vraiment chouette. Tous les jours, il est occupé, que ce soit par des crèches de la région, par des touristes, par les gens locaux, et puis les enfants s'amusent, et les grands-parents avec, si ce n'est les parents, évidemment.
Des propos recueillis par Anthony Dacampo, inauguré en septembre dernier, le petit parc revitalisé d'un coût de 500 000 francs favorise le mouvement en plein air des familles, des écoles et des clubs sportifs de la région. À Lausanne, l'idée de déplacer le local d'injection de la Riponne est à l'étude. C'est ce que déclare son syndic Grégoire Junot dans un entretien publié aujourd'hui dans 24 heures. L'élu estime qu'il faut faire mieux, collaborer tous les acteurs, soit la police, la santé publique cantonale et les services sociaux. Il refuse cependant de fermer les structures d'accueil des toxicomanes, comme le réclame l'UDC, car cela signifierait reporter tous les problèmes dans la rue. Les commerçants du centre de Lausanne ont adressé à la mi-octobre une lettre ouverte à la municipalité, demandant une action urgente de la part des autorités. De plus en plus de multinationales sont condamnées en Suisse pour des actes de corruption à l'étranger. Ces dernières années, elles ont dû verser 900 millions de francs pour compenser leurs profits illicites. Mais cet argent reste dans les caisses de la Confédération, dénonce Public Eye. L'ONG a lancé cette semaine une pétition pour que ces millions soient restitués aux populations lésées à l'étranger. Mais comment éviter qu'ils ne soient versés à des politiciens ou des organisations corrompues? Écoutez la réponse de Géraldine Viret, elle est porte-parole de Public Eye.
Bon, c'est évidemment une question qui est assez complexe, hein, il faut pas le nier, mais je crois que ça doit pas servir d'excuse pour justifier un statu quo. Pour éviter que ces fonds retombent dans des circuits corruptifs, il faut vraiment mettre en place des garde-fous, hein, des accords, par exemple, de restitution conditionnelle qui fixent des modalités claires. Ces accords peuvent prévoir, par exemple, qu'une fondation indépendante ou une organisation internationale contrôle l'utilisation des fonds pour s'assurer que ce soit bien au bénéfice des populations lésées. Et on voit que la Suisse a quand même déjà une certaine expérience de ces mécanismes-là dans le cadre de la restitution des avoirs de potentats.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier. La pétition demande une plus grande souplesse dans la coopération judiciaire internationale et la possibilité pour le Conseil fédéral de décider de manière autonome de reverser cet argent aux populations lésées. À l'étranger, la présence de drones a provoqué des perturbations. Hier soir, à l'aéroport de Berlin-Brandebourg, des vols ont été suspendus pendant près de 2 heures. Les dirigeants allemands ont alerté à plusieurs reprises au sujet de la menace croissante que représentent les drones après une série d'incursions d'appareils non identifiés dans des aéroports et des sites militaires sensibles cette année. Au niveau de l'Union européenne, la Commission veut mettre en place un mur anti-drones qui serait pleinement opérationnel d'ici à 2027, mais ce projet est accueilli avec scepticisme par certains pays membres. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a annoncé hier restreindre l'accès des journalistes à une partie de son bureau de presse afin de mieux protéger, je cite, « des informations sensibles ». Cette décision intervient sur fond de tension entre les grands médias et le gouvernement américain. Cette annonce intervient 2 semaines après que le ministère américain de la Défense a imposé aux journalistes accrédités l'interdiction de solliciter ou publier certaines informations sans autorisation explicite du ministère. En sport, en cyclo-cross, la 4e étape de l'Omnium Roman fait halte à Réna ce dimanche. Plus de 200 participants de diverses catégories d'âge vont s'affronter sur un parcours qui traversera le cœur de la localité chablaisienne. Organisée par le Montreux Réna Cyclisme, l'épreuve vivra son point culminant à 14h30 pour le départ de la catégorie Rennes Master 1, dont les inscrits s'élanceront pour une durée de 50 minutes sur un tracé annoncé roulant avec un faible dénivelé. Écoutez les précisions du président du Montreux Réna Cyclisme, Laurent Dufaux.
Déjà, on doit un petit peu s'adapter à la topographie du site. Je crois que nous, on n'a pas beaucoup de dénivelé. C'est plutôt un parcours plat, rapide. On exploite quand même le centre du village pour créer quand même un petit peu l'événement et puis que ça soit quand même quelque chose d'assez festif. On a aussi la salle de l'aréna pour accueillir les gens où ils peuvent se restaurer, s'hydrater. Puis après, on essaye un petit peu de se concentrer avec un parcours où les spectateurs, sur finalement un petit périmètre, peuvent avoir une vue d'ensemble du parcours, voir le déroulement des différentes courses. Souvent, les courses sont avec un certain suspense et puis ça donne des courses très dynamiques, très intéressantes à suivre. Tout ça est mis en amont et puis, encore une fois, très épaulé par les autorités communales de Réna, comme je l'ai dit, qui nous soutiennent et qui mettent tout en œuvre pour pouvoir accueillir au mieux cette manifestation au centre du village.
Laurent Dufaux au micro de Ludovic Turin. Après un premier passage dans la région en ouverture de saison au Diableret, l'Omnium Roman fait donc un nouveau stop dans le Chablais. Il continuera fin novembre à Grange-Marnan, puis Port-Antruy, avant de conclure en Valais du côté de Bramois.